Eh bien, bonsoir à tous, encore à nouveau. J'espère que vous avez bien mangé. Alors, nous avons vu comment Jean est passé des ténèbres à la lumière, avec le thème, hein, c'est les passages. Mais Pâques, ça veut dire justement passage. Donc, ce n'est pas par hasard qu'on voit que le Christ ressuscité, en fait, fait faire des passages à ses disciples. Jean y passe des ténèbres à la lumière. Marie-Madeleine, elle passe de la tristesse à la joie. Les dix, l'église naissante, y passe de la peur à la paix. Puis il y en a un qui n'était pas là, Thomas. Lui, il va passer du doute à la foi, il va passer de la négativité à la positivité, disons. Et puis la dernière fois, on a vu comment les disciples, spécialement sept d'entre eux, ont pêché toute la nuit sans rien prendre. Et il passe du désarroi à l'enthousiasme, de l'ennui à l'enthousiasme, de la stérilité à la fécondité, on peut dire. Mais il y a un de ses disciples qui, lui, semble avoir du mal à vraiment entrer dans l'enthousiasme, parce que lui, il a gros sur la conscience, plus que les autres. Les autres se sentent sans doute coupables d'avoir fui alors que Jésus était pris par les soldats. Ils l'ont laissé tout seul à la croix, sauf Jean. Donc ils ne se sentent sans doute pas très bien non plus. Mais Pierre, qui était censé être le premier, qui avait juré par tous les dieux, si je puis dire, que jamais, si tous les autres le trahissaient, lui ne le renierait jamais, voilà qu'il l'a renié trois fois. Donc Pierre, il vit certainement à ce moment-là une immense épreuve. Christ est ressuscité, mais pas pour lui. Lui, il se sent coupable. Et il doit bien se demander, quand on va parler à nouveau avec Jésus, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il va me dire? Je pense qu'à ce moment-là de sa vie, Pierre a l'impression qu'il a échoué. Il a quitté son boulot pour quelqu'un en qui il a cru. Il a renié cet homme, et qui lui avait donné pourtant la première place, donc il était le boss de la petite entreprise fondée par Jésus. Et puis voilà qu'en fait, il a raté, quoi. Donc vous voyez, ça c'est l'expérience d'un ratage, l'impression de l'échec de toute une vie, en fait. Et ça peut nous arriver, ça peut arriver des moments où on a vraiment l'impression qu'on a raté ce qui était le plus important à nos yeux. Donc là, il doit se demander à ce moment-là, mais qu'est-ce qui reste maintenant pour moi? C'est quoi le sens de tout ça? L'édifice prévu s'est écroulé. Et ce qu'on va voir, c'est que Jésus va aller le chercher au fond de son désespoir pour le repêcher. Ce n'est pas pour rien que c'est une histoire de pêche et que c'est à la suite de cette pêche miraculeuse qu'il va y avoir ce dialogue. Parce qu'en fait, l'enjeu principal, c'est d'aller repêcher Saint-Pierre. C'est lui le gros poisson, finalement. Alors ce soir, on va voir ce nouveau passage, celui de la culpabilité à la paix intérieure. Et c'est important parce qu'on a tous, à un degré ou à un autre, un poids de culpabilité. Un peu comme ceux qui étaient invités à lapider la femme adultère, ils laissèrent leur pierre en commençant par les anciens. Donc j'ai l'impression que plus les années avancent, plus ça s'ajoute, quoi. Plus on est vieux, plus on a de raison de se dire, ben quand même, c'est pas brillant. En tout cas, j'imagine qu'il y a des choses qu'on a faites dans la vie qu'on aurait préféré ne pas faire. Mais il y a surtout, en fait, des choses qu'on n'a pas faites. Il y a un ensemble de choses. On aurait dû être là, on aurait dû faire ça. Il y avait tellement de bien que j'aurais pu faire, je n'ai pas fait tout le bien que je devais faire. Je pense à Saint Vincent de Paul, qui... Alors, ce n'est pas un exemple, hein, parce que les saints ne sont pas imités matériellement. Mais enfin, il y a cette parole à la fin de sa vie, qui dit « Quand je pense que j'ai dû attendre jusqu'à maintenant pour savoir que je pouvais dormir que 4 heures. » Tout le reste du temps, il donnait. Et il se culpabilisait, lui, d'avoir dormi un peu plus que 4 heures par nuit alors qu'il le pouvait. Alors, évidemment, hein, il ne s'agit pas de devenir scrupuleux. Mais je pense qu'à la fin de notre vie, souvent on demande à la fin, quand les gens sont mourants, finalement, est-ce que vous regrettez des choses? Et curieusement, ce n'est pas tellement ce qu'ils ont fait qu'ils regrettent, c'est ce qu'ils n'ont pas fait. Ce qu'ils n'ont pas osé faire. Je n'ai pas osé dire à cette personne que je l'aimais. Et à la fin, ça reste un truc, un regret, en fait. On peut avoir beaucoup de regrets. Alors ce soir, on va regarder un sujet qui est un peu lourd, hein, parce que c'est la question des regrets, c'est la question de la culpabilité. La bonne nouvelle, c'est que Jésus en délivre. Mais disons que quand on va regarder ça d'à peu près, c'est un petit peu lourd. Alors il y a ce dialogue avec Pierre, juste après le pique-nique sur le lac, avec un poisson fait par Jésus lui-même, donc il a dû être excellent ce poisson. Et puis alors, il y a quand même un petit, dans le récit que fait Jean, Jean de temps en temps, il est pas sympa. Tout le respect que j'ai pour Jean, il est quand même taquin, disons, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'il indique que Jésus avait préparé du poisson sur un feu de braise. Ça vous rappelle rien ? Le feu de braise n'apparaît que deux fois dans l'évangile de Jean. La dernière fois, c'est en Jean 18:18. Les serviteurs et les gardes qui avaient fait un feu de braise parce que le temps était froid se tenaient et se chauffaient. Pierre aussi se tenait là avec eux et se chauffait. Vous vous souvenez de ce passage ? Au moment où Pierre va renier Jésus, on nous indique qu'il y a un feu de braise et Pierre est près du feu de braise. Et là, on retrouve le feu de braise. Ouais, et Jésus va lui demander par trois fois, est-ce que tu m'aimes ? Il a renié trois fois, il va être cautérisé par le feu trois fois. Donc c'est une allusion, ce feu de braise, il est l'allusion à la culpabilité de Pierre et à son triple reniement. Alors lisons le passage. Quand ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes agneaux. » Il lui dit à nouveau, une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ?»« Oui, Seigneur, dit-il, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ?» Pierre fut peiné de ce qu'il lui dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » et lui dit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Quand tu auras vieilli, tu étendras les mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudrais pas. » Il signifiait en parlant ainsi le genre de mort par lequel Pierre devait glorifier Dieu. Ayant dit cela, il lui dit, « Suis-moi. » Alors on va reprendre ce passage ligne à ligne, parce que, comme d'habitude, chaque mot compte, chaque mot vient du Saint-Esprit, et donc chaque mot est chargé souvent d'un sens immense. « Quand ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean. » Donc Pierre se retrouve là, face à Jésus, il le prend à part. La dernière fois qu'ils ont vraiment été ensemble, c'était chez Anne, le grand prêtre, et c'est à ce moment-là qu'il a renié Jésus. « Je ne connais pas cet homme », dit-il avec force imprécation même. On a ça, Marc, qui est sans doute le scribe de Pierre, l'évangile de Marc. Donc c'est Pierre lui-même qui raconte à Marc l'événement. « Je ne connais pas cet homme », dit-il avec force imprécation, comme s'il était en colère. « Je ne veux plus rien avoir à faire avec lui. » Et là, il le retrouve. Depuis ce temps-là, ils ne se sont pas rencontrés. Donc Jésus va aller chercher le cœur de Pierre, c'est le cas de le dire, et pour le faire passer de la culpabilité à la résurrection. Et vous voyez que ça commence par une relation personnelle. Il lui dit « Simon, fils de Jean ». Il ne l'appelle pas Képhas, c'est le surnom qu'il lui avait donné. « Tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église ». Ce n'est pas son nom que lui ont donné ses parents. Donc là, il vient le chercher dans son nom personnel, Simon, fils de Jean. Donc, il instaure une relation qui n'est pas sur la fonction. Pierre, c'est sa fonction. « Tu es sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Ok. Jésus lui donne un surnom qui désigne sa fonction. Là, il vient le chercher dans une relation personnelle. Le pardon se fait de personne à personne. « M'aimes-tu plus que ceci ?» Alors, première question, « M'aimes-tu ?» Donc, une question qui porte sur l'amour. Et notez tout de suite qu'il ne lui fait aucun reproche. Ça, c'est quand même très beau. Il ne lui dit pas, « Tu vois, je t'avais prévenu. Je t'avais bien dit que le coq ne chanterait pas deux fois, que tu m'aies renié trois fois. Je t'avais dit. Fallait m'écouter, maintenant t'es tombé, tu vas m'écouter maintenant. » Ça aurait pu être ça comme discours. Il ne lui dit pas, « Est-ce que tu reconnais que tu m'as fait du mal ?» Est-ce que tu me demandes pardon maintenant pour que je puisse te pardonner à mon tour ? Il ne lui dit pas est-ce que maintenant tu vas être fidèle enfin ? Non. Il ne lui demande même pas est-ce que tu crois ? Habituellement, c'est la question qu'il pose, crois-tu au Fils de l'homme ? C'est juste, est-ce que tu m'aimes ? On pourrait imaginer aussi qu'avant de pardonner, il vérifie les conditions du pardon. Que je veux bien te pardonner, mais est-ce que tu es dans de bonnes conditions pour le pardon, comme on fait avant la confession, vous voyez ? Est-ce que tu as de la contrition ? On aurait pu lui dire ça. Est-ce que tu as bien pleuré maintenant ? On peut en venir au pardon, tu as suffisamment pleuré ? Est-ce que tu es contrit ? Est-ce que tu as fait pénitence ? On pourrait dire, voilà, c'est un bon confesseur dans les confessionnaux, etc. Jadis aurait posé ces questions. Non, c'est est-ce que tu m'aimes ? Et parce qu'il va à la source, vous voyez, la culpabilité, les larmes, la contrition, tout ça, ça ne sert à rien en fait si ça ne vient pas de l'amour. Donc Jésus va tout de suite chercher la source, pas seulement les effets de la source. Si la source qui anime nos actions n'est pas l'amour, on peut dire que tout le reste est faux. C'est pour ça que si on veut trouver la paix intérieure, il faut revenir à l'amour. C'est pour ça que Jésus va travailler le cœur de Pierre sur la question de l'amour, pas sur la question de ce qu'il a fait ou de ce qu'il pense, ou etc. Seule question, est-ce que tu m'aimes ? Et c'est un amour à l'égard de sa personne. Il ne lui demande pas « Est-ce que tu aimes le royaume de Dieu ?» Il ne lui dit pas « Est-ce que tu aimes l'Église ?» Il ne lui dit pas « Est-ce que tu aimes mes brebis ?» Puisque maintenant, je vais te les confier. Non, non, est-ce que tu m'aimes ? C'est très beau, j'avais rencontré une fois le père Caffarel qui était au conclave, qui a élu le pape François, je crois, si ce n'était pas pour son prédécesseur, je ne sais plus, mais il avait raconté cette histoire qu'au moment où, pendant le conclave, il n'y avait pas encore l'élection d'un pape, un des cardinaux a pris la parole pour dire « Je m'adresse au futur pape et je veux lui poser la question au nom du Christ, est-ce que tu m'aimes ?» Oui, c'était pour le pape, c'était quand Ratzinger a été élu. Et donc ça fait un effet évidemment un peu théâtral, parce que le pape n'est pas élu et il lui pose la question « Est-ce que tu m'aimes ?» Il dit « Parce que quoi qu'il arrive avec le prochain pape qu'on va élire, c'est la seule question qui est importante. » Et il dit que quand ils se sont fait l'accolade avec ce cardinal et le pape Benoît XVI, donc, le pape Benoît XVI lui a dit « J'ai bien entendu votre question et je ne l'oublierai pas. » C'est au fond la seule question décisive pour le Christ et pour nous, donc, c'est « Est-ce que j'aime Jésus ?» Si je veux retrouver la paix intérieure et dépasser toute forme de culpabilité, au fond, c'est de répondre en vérité à Jésus en le regardant dans les yeux « Tu sais tout, tu sais que je t'aime. » Malgré tout. On sera sauvé sous le mode du malgré tout. Alors, il y a un détail étonnant ici. Il commence par lui poser une question assez bizarre. Est-ce que tu m'aimes plus que ceci ? C'est quand même bizarre. Il a passé son temps à leur dire qu'il ne fallait pas se croire supérieur aux autres. Eux passaient leur temps à chercher qui était le premier, qui était le plus grand. Judas disait « C'est moi, il m'a donné l'économat, c'est le nerf de la guerre ». Pierre disait « Ben non, c'est moi qui l'ai mis à la tête ». Jean disait « Ouais, mais moi je suis le bien-aimé ». Chacun avait une bonne raison de penser qu'il était le préféré, quoi. Et donc Jésus a arrêté de leur dire « Mais regardez les enfants, si vous voulez être le premier, soyez le dernier ». Et là, est-ce que tu m'aimes plus que ceci ? On a l'impression qu'il réorganise lui-même la compétition. Alors pourquoi ? Est-ce que c'est pour tester Pierre, pour voir si cette fois il a bien compris que tout n'est pas une question de compétition ? Est-ce qu'il lui tend un piège dans cette question ? J'imagine pas Jésus tendant un piège à Pierre dans l'état où est Pierre. Ce serait pas très charitable pour le coup. En revanche, vous avez un passage où c'est un petit peu comme ça, c'est dans Luc 7, 36-49. Je vais le lire même si c'est un peu long, parce que ce passage est à mettre en parallèle. Peut-être vous pourrez faire l'exo divina sur ce passage, qui est très impressionnant. C'est justement quand Jésus va chez un pharisien qui, comme par hasard, s'appelle Simon. Un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place à table. Survint une femme de la ville, une pécheresse. Ayant appris que Jésus était à table dans la maison du pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre contenant un parfum. Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, près de ses pieds, et elle se mit à mouiller ses pieds de ses larmes. Et elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers, et répandait sur eux le parfum. En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même, « Si cet homme était un prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et qu'elle est une pécheresse. » Jésus, prenant la parole, dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. Parle, maître. » Jésus reprit. Un créancier avait deux débiteurs. Le premier lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvait les lui rembourser, il en fit grâce à tous les deux. Il notait bien sa question, lequel des deux l'aimera le plus ? On retrouve finalement la question du plus ici, uniquement dans ce texte et dans le dialogue avec Pierre. Simon répondit, je suppose que c'est celui à qui on a fait grâce de la plus grande dette. Tu as raison, lui dit Jésus. Il se tourna vers la femme et dit à Simon, tu vois cette femme ? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas versé l'eau sur les pieds. Elle, elle a mouillé de ses larmes mes pieds et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé. Elle, depuis qu'elle est entrée, n'a cessé d'embrasser mes pieds. Tu ne m'as pas fait d'onction sur ma tête. Elle, elle a répandu du parfum sur mes pieds. Voilà pourquoi je te le dis. Ses péchés, ses nombreux péchés sont pardonnés puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu montre peu d'amour. Il dit alors à la femme, tes péchés sont pardonnés. Les convives se mirent à dire en eux-mêmes, qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés ? Oui, est-ce que tu m'aimes plus que ceci ? Parce que tu es plus débiteur. En fait, c'est ça la vraie raison. Je te manifeste plus de miséricorde à toi encore qu'aux autres. Je t'apparais autant à toi qu'aux autres alors que tu as plus péché. Il va falloir que tu utilises plus encore comme un argument pour que tout s'inverse. Puisque tu as plus péché que les autres, alors aime plus. Est-ce que tu m'aimes plus que les autres ? Et ça, c'est l'art de faire de notre péché une occasion de sainteté. C'est, je vais rebondir sur le mal même que j'ai fait comme occasion pour aller encore plus loin dans l'amour. Et là, on comprend ce que dira un jour Jésus à Faustine, qui a été canonisée par le pape Jean-Paul II en l'an 2000. L'humanité ne trouvera pas la paix tant qu'elle ne se tournera pas avec confiance vers ma miséricorde. C'est ça la clé. La paix du cœur, c'est le fruit de l'abandon à la miséricorde du Christ. C'est ce qui se passe sacramentellement dans la confession, même si la confession, c'est toujours un petit peu un exercice pénible, vécu souvent de façon un peu névrotique, mais en fait, c'est un vrai sacrement de paix, la confession. Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Paix mes agneaux. » Alors ici, on voit déjà le retournement de Pierre. Il commence sa phrase en disant, « Tu sais tout. » Il commence donc par « toi » et non pas par « je ». Ça, c'est nouveau chez Pierre. Normalement, à chaque fois qu'il prend la parole, c'est « moi, je, moi, je, moi, je ». Il est toujours en train de commencer ses phrases par « je ». Il est très centré, Pierre. Dans les évangiles, on dit « quand bien même tous te trahiraient, moi non ». C'est toujours « moi, moi, moi » avec Pierre. Là, il est beaucoup plus humble, là « tu sais tout ». Il aurait pu dire « oui, je t'aime ». Non, non. Il a plus cette vergogne de commencer sa phrase par « je ». Et donc, « tu sais tout ». On pourrait dire que là, il s'est décentré de son cogito, si vous voulez une expression un peu pédante. Alors, là, il est prêt pour la mission. Il est, puisqu'il est décentré, puisque c'est désormais toi qui compte, alors il est prêt pour la mission. Et Jésus lui dit, alors, paix mes brebis, maintenant t'es prêt. Il lui dit à nouveau, une deuxième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? Oui, Seigneur, lui dit-il, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, paix mes brebis, deuxième fois. Quelque chose de joli en grec, vous avez plusieurs verbes pour dire l'amour. Vous avez agapé, c'est l'amour le plus intense, c'est l'amour divin. Vous avez philia, c'est l'amour d'amitié. Puis vous avez eros. Eros, c'est l'amour donc de passionnel. Là, il n'y a pas le mot eros, mais il y a un jeu de mots entre agapé et philia. Agapao, donc j'aime, ou alors philéo, j'aime. C'est les deux, mais ce n'est pas le même mot. Agapao, c'est j'aime très fort. Et en fait, quand Jésus lui pose la question, il lui dit agapesme, est-ce que tu m'aimes, agapé ? Et quand Pierre répond, il n'ose pas utiliser le même verbe. Il dit philes, donc philo, pardon. Et donc il dit je t'aime. Mais il utilise un mot plus bas, vous voyez. Jésus lui demande s'il a un amour très intense et lui répond humblement tu sais tout. Tu sais que, Philo, je t'aime. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? Pierre fut peiné de ce qu'il lui dit pour la troisième fois, m'aimes-tu ? Et il dit, Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime. Alors il est peiné pourquoi ? Bon, troisième fois, je crois que cette fois il a compris que c'est lié à son reniement. Mais il y a aussi quelque chose en grec qui est intéressant, c'est que Jésus lui-même n'utilise plus le même verbe. Il lui a dit d'abord agapesme, agapesme, et là il lui dit phileisme. Et donc vous voyez, même Jésus descend le niveau. Est-ce que tu m'aimes très fort, Pierre ? Oui, Seigneur, tu sais. Est-ce que tu m'aimes très fort ? Oui, Seigneur. Est-ce que tu m'aimes un peu ? Mais c'est ça l'idée. Donc il diminue la puissance du verbe, l'intensité du verbe, et là Pierre est peiné. Jésus lui dit alors, paie mes brebis. Il lui redonne la première place, trois fois de suite, alors que c'était le problème de Pierre. Ok, Christ est ressuscité, on est encore là, les onze, Judas n'est plus là, mais enfin, il y a encore notre petite entreprise. Mais moi, je ne peux plus être le chef, j'ai renié le boss. Donc, il devait se demander, mais c'est quoi ma place maintenant ? C'était habitué depuis trois ans à être un peu le sous-chef. Et maintenant, c'est quoi ma place ? Et Jésus, par trois fois de suite, lui redonne la première place. Les grâces de Dieu sont sans repentance. Pourquoi il fait ça ? Quel chef d'entreprise ferait ça ? Il y a un type qui vous a trahi. Il faut être naïf, même un peu bête, pour le remettre à la première place. S'il n'est pas fiable, il n'est pas fiable. Puis vous avez Jean, lui, qui a été fidèle. Moi, je serai chef d'entreprise. Dit, bon, bah, écoute, Pierre, tu comprendras que c'est Jean qui s'est avéré le type fidèle, quoi. C'est lui, en fait, le chef. Eh ben non, il remet Pierre. Alors ça, c'est mystérieux. Hein. Il dit, en vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture, tu allais où tu voulais. Quand tu auras vieilli, tu étendras les mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudrais pas. Deux périodes de la vie, hein. Ça c'est intéressant pour pas mal d'entre nous. Quand tu étais jeune, blablabla, quand tu seras vieux, blablabla. Et le programme n'est pas le même. Le programme de la matinée ne marche pas pour l'après-midi. Vous avez le matin, vous aviez décidé un truc, vous êtes en pleine forme, tout ça. Ça n'a pas marché l'après-midi. Eh bien, il y a une première partie de la vie. La première partie de la vie, on doit se prouver plein de trucs. Il faut qu'on réussisse des choses, il faut qu'on sache de quoi on est capable. Je dirais que la première partie, c'est pour se construire. La deuxième, c'est pour se déconstruire. Et la première partie, c'est pour construire son ego. On en a besoin, même psychologiquement, c'est sain. Il faut que je sache qui je suis, que je sois fier de ce que je peux faire quand même, que je connaisse mes qualités. Et puis la deuxième partie, elle est beaucoup plus dans l'abandon, jusqu'à la fin, où effectivement, quand tu seras vieux, un autre, ce qu'on voit avec nos vieux parents, un autre prendra soin de toi. Et puis il y a quelque chose d'abandon qui fait partie du programme, en fait, qu'on a du mal à accepter, mais qui est peut-être le sommet du programme. Le Christ lui dit, voilà, dans la deuxième partie de ta vie, un autre. Alors pour lui, il désignait son martyr. Hein. Jean le dit, il signifie en parlant ainsi le genre de mort par lequel Pierre devrait glorifier Dieu. Ayant dit cela, il lui dit, suis-moi. Donc Pierre suit et il sera martyr. Alors selon la tradition, il y a une légende qui dit que ça n'a pas été si facile quand même. Que quand Pierre était à Rome, pendant la persécution de Néron, ben, il a voulu quitter Rome. Et le Seigneur lui serait apparu sur la route. Et Pierre lui aurait dit, quo vadis, domine. Où vas-tu, Seigneur ? Jésus lui apparaît sur la route. Il lui dit, et Pierre lui dit, où vas-tu, Seigneur ? Quo vadis, domine. Et Jésus lui répond, je vais à Rome pour être crucifié une seconde fois. Et Pierre alors serait retourné à Rome, où il sera effectivement crucifié. On voit ici donc, après la pêche miraculeuse, Jésus vient repêcher Pierre. C'est lui, Jésus, le pêcheur d'hommes, finalement, le seul pêcheur d'hommes. Pierre est ce gros poisson qui vient d'être pêché. Il le sort de sa culpabilité par l'amour. Ça, c'est vraiment la clé. Comment sortir de ma culpabilité avant même d'aller me confesser ? Justement, pour que ma confession ne soit pas névrotique, parce que sinon on va se confesser pour se sentir bien, blanc, washing machine. Vous voyez, c'est... Non, la vraie préparation de la confession, c'est de dire à Jésus, je t'aime. Maintenant, on va aller se rencontrer. Mais vous voyez, c'est une relation d'amour. C'est pas une relation simplement « je suis sale et je veux être blanc ». C'est autre chose. C'est un contact personnel, une relation personnelle. Alors l'enjeu du dialogue, c'est ça, c'est retrouver la paix du cœur, sortir de la culpabilité, sortir du repliement sur toi. Tu sais tout, c'est toi qui est important. Et de s'ouvrir ainsi à l'espérance, puisqu'il lui donne du coup une mission maintenant. Ça y est, c'est terminé. Maintenant, regarde vers l'avenir. Le passé a été effacé, cautérisé 3 fois par le feu de l'amour. Maintenant, paix mes brebis, t'as autre chose à faire qu'à pleurer ton passé. Saint François d'Assise, comme ça au début, après sa conversion, passait son temps à pleurer. Jésus lui apparut une fois en lui disant « mais t'as pas mieux à faire maintenant, c'est bon ». Il ne l'a peut-être pas dit exactement comme ça, mais l'idée c'était ça. Donc c'est important de comprendre ça pour nous, et du coup je voudrais réfléchir un tout petit peu sur la culpabilité, pour essayer de comprendre ce concept. C'est un sentiment qui peut être terrible, qui peut nous empoisonner la vie, qui peut faire que partout où on n'est jamais vraiment joyeux, parce qu'en fond d'écran, on a toujours un truc. Et ça peut nous ronger de l'intérieur. Et alors, le démon aime beaucoup ça. Le démon, en fait, il a 2 tactiques. Il est assez binaire, en fait. Hein, il n'est pas très fin, le démon. Soit nous enlever toute forme de contrition, afin qu'on continue à pécher, à offenser Dieu en toute tranquillité, première tactique. Soit nous plonger dans une culpabilité amère et désespérée, de façon à ce qu'on s'éloigne définitivement du Seigneur. Et en fait, c'est ça sa tactique préférée. Il aime bien faire tomber les gens, mais il aime surtout les écraser pour qu'ils ne se relèvent pas. Il a comme un... il joue en 2 bandes, si vous voulez. Il va d'abord faire tomber, ensuite faire désespérer. Il ne faut pas oublier que dans l'Apocalypse, on le nomme l'accusateur de ses frères. C'est ça, le Satan. C'est l'accusateur. Donc quand il veut, il ne peut pas faire que notre conscience devienne aveugle, eh bien, il cherche à faire que notre conscience nous accuse au point qu'on va désespérer de la miséricorde. Et dans les 2 cas, ça, on arrive à la même chose. Celui qui est aveuglé et qui pêche sans même se soucier de quoi que ce soit, ben, il fait le jeu du démon. Celui qui ne veut pas revenir à la miséricorde, il fait le jeu du démon. Dans les 2 cas, on s'éloigne de Dieu. Alors comprenons bien, avoir de la contrition quand on a fait du mal, c'est une bonne chose, c'est normal. C'est un peu comme quelqu'un qui se brûle et il a la sensibilité. Ça fait mal, mais c'est bon. Ça veut dire qu'au moins, quand quelque chose est dangereux pour votre vie, ben vous le sentez. Donc il est bon d'avoir un toucher un peu fin, même si ça brûle. Ben, avoir une conscience un peu fine qui fait qu'elle souffre quand elle voit qu'elle a fait du mal à des gens, quand elle voit qu'elle a offensé Dieu, c'est un bon point. En fait, la culpabilité et la contrition se ressemblent parce que dans les 2 cas, c'est un jugement sur le passé, une sorte de mémoire morale, si vous voulez. Mais ce n'est pas qu'un jugement logique, hein, ce n'est pas oui, objectivement, j'ai dégamé. C'est un jugement qui implique un affect. Saint Thomas d'Aquin disait que c'est une douleur de la volonté, donc une douleur de la capacité d'aimer. Si vous avez fait une parole méchante à quelqu'un que vous aimez, ben normalement, ça vous fait mal. Mais comment j'ai pu dire ça à cette personne? Je l'aime. Pourquoi je lui ai dit ça? Donc ça nous fait mal, en fait. Ben heureusement. Heureusement. Donc la contrition, elle est bonne. Il ne faut pas chercher à la fuir. Mais la culpabilité est un peu différente. La contrition, je dirais que c'est... La culpabilité, c'est une contrition sans espérance, en fait. On pourrait la définir comme ça. C'est une contrition qui ne croise pas le regard de Jésus. C'est celle de Judas, en fait. Et celle-là, elle conduit à la mort. Isidore de Séville, un père de l'Église, dit « Le péché fait mourir, mais le désespoir fait descendre en enfer ». C'est exactement ça. Hein. Le démon a agi en 2 temps. Je vais te faire mourir d'abord, puis ensuite je vais te faire descendre en enfer. C'est ça son but. Et donc là, il faut croiser le regard de Jésus. Pierre a déjà été sauvé, en fait, quand le coq a chanté. Le coq, c'est quoi? C'est le symbole de la conscience morale. Béni soit ce coq. Quand tout d'un coup il a entendu le coq chanter, il a pensé aux paroles de Jésus, il s'est mis à pleurer. Bienheureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Hein. Déjà à ce moment-là, en fait, tout est déjà gagné parce qu'il a déjà de la contrition. Mais il aurait pu basculer dans une culpabilité totalement mortifère et finir comme Judas. Je pense, je ne serais pas curieux, on verra ça au ciel, mais je ne serais pas étonné qu'il ait été dans la tentation de suicide comme Judas était dans la tentation de suicide. Qu'est-ce qui lui a permis de résister? La grâce de Dieu. Et puis le fait peut-être qu'il a croisé le regard de Jésus et qu'il a continué d'espérer sa miséricorde. Donc en fait, c'est ça la culpabilité qui nous écrase, elle est démoniaque, alors que la contrition qui nous tourne vers le Christ, elle est divine. Et alors c'est ça qui fait qu'on se tourne vers la miséricorde. Pour reprendre Sainte Faustine, quelques paroles de son journal, vous savez qu'elle avait des apparitions de Jésus et qu'elle avait un message de miséricorde à donner au monde. Il y a des très belles choses dans ce journal. À un moment, le Christ lui dit « La source de ma miséricorde a été largement ouverte par la lance sur la croix. Pour toutes les âmes, je n'ai exclu personne. » Ou encore « Les flammes de ma pitié me brûlent, je désire les transmettre aux âmes humaines parce que ma miséricorde est pour le monde entier. » Ou encore « Sache, ma fille, que mon cœur est la miséricorde même. De cet océan de miséricorde, les grâces se répandent sur le monde entier. » Aucune âme qui s'est approchée de moi ne m'a quitté sans consolation. Toute misère sombre dans ma miséricorde et toute grâce jaillit de cette source. Dis aux âmes qu'à cette source de la miséricorde, les âmes ne puissent qu'avec le vase de la confiance. Lorsque leur confiance sera grande, il n'y aura pas de borne à mes largesses. Le torrent de ma grâce inonde les âmes humbles. Donc vous retrouvez ici le thème de l'espérance, dont la clé, finalement, est la miséricorde. On a dit que c'est l'année de l'espérance. Il y a eu déjà un jubilé de la miséricorde. En fait, ça va ensemble. C'est bien parce que le Seigneur me fait miséricorde que je peux espérer. Il n'y aurait pas sa miséricorde, on est foutu. On est mal barré. Et là, grâce à la miséricorde de Dieu et la confiance en sa miséricorde, quel que soit, même si mes péchés sont noirs comme l'écarlate, rouges comme l'écarlate, pardon, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le vermillon, ils deviendront comme la laine, dit Isaïe. Alors, il y en a qui ont plus de mal que d'autres. Kafka a écrit un ouvrage, Le Procès, qui est un ouvrage sur la culpabilité, en fait. Vous avez un type qui s'appelle K, on ne saura jamais son nom, c'est K, simplement. Et l'histoire commence, tout d'un coup on vient le chercher, il est accusé. Mais on ne lui dit pas quoi, il ne sait pas de quoi lui-même il est accusé. Il mène une vie de petit fonctionnaire, de modeste employé, il ne voit vraiment pas où est le problème, sa vie est normale. Mais il est mis en accusation et ça a l'air d'être sérieux. On lui fait un procès et il sait qu'il est accusé, il sait qu'il y a une procédure, il sait qu'il y a un tribunal, mais il ne sait toujours pas quoi. Et pendant tout le roman de Kafka, à aucun moment finalement on ne saura de quoi il est accusé. On sait juste à la fin qu'il est condamné. Et au cours de l'affaire, on apprend en fait qu'il a deux possibilités, soit l'absolution réelle, soit le non-lieu. Je reprends dans mes termes, ce n'est pas exactement comme ça que dit Kafka. L'absolution réelle, il est déclaré innocent. Le non-lieu, c'est que, bon, on reporte à plus tard, ou momentanément, où il y a une absolution apparente, disons. Mais il n'y a pas une déclaration d'innocence. Il y a non-lieu, vice de forme, ou que sais-je. Du coup, ça maintient l'accusé dans un état d'incertitude morale toute sa vie. Et Kafka dit, dans l'absolution réelle, en revanche, les actes du procès doivent être complètement éliminés. Ils doivent disparaître totalement de la procédure. Non seulement l'accusation, mais également le procès lui-même. Et même la sentence doivent être détruits. Dans l'absolution réelle, tout est détruit. Sauf que Kafka n'y croit pas. Pour Kafka, on a entendu dire qu'il y a des absolutions réelles, je pense qu'il y a une allusion au Christ ici, mais tout ça sont des légendes. Pour Kafka, ce sont de très belles légendes, il n'y a jamais d'absolution réelle. Et c'est pourquoi finalement, K est exécuté à la fin, l'avant-veille de son 39e anniversaire, précisément vers 9h du soir. Des hommes viennent le chercher chez lui, ils le conduisent dans une petite carrière hors de la ville. Il l'exécute sans autre espèce de formalité à l'aide d'un couteau de boucher. Et les derniers mots de Kafka résument, même de K, pas de Kafka, Il dit qu'il meurt comme un chien, comme si la honte devait lui survivre. Et comme si la honte devait lui survivre. C'est-à-dire que la honte, elle n'est même pas seulement pour cette terre, elle est éternelle. Comme si elle avait quelque chose de transcendant. Et l'œuvre se termine donc de façon absurde comme ça, comme souvent avec Kafka. Et on entrevoit de loin qu'un salut serait souhaitable, une absolution totale serait souhaitable, la fin de la honte serait souhaitable. Mais en fait, nous sommes dans les terreurs de la nuit, sans jamais réussir à l'atteindre, et tout ça, finalement, sont des légendes. Alors, la bonne nouvelle de Pâques, eh bien, c'est que la liturgie de l'Église nous transmet l'incroyable nouvelle que l'absolution réelle existe pour l'homme, que ce n'est pas un non-lieu, que c'est une absolution réelle, que ce n'est pas une légende, une chose très belle mais impossible à atteindre. Jésus, dit saint Paul, a détruit la cédule de notre dette qui nous était contraire, il l'a supprimée en la clouant à la croix. Donc il a tout détruit, il n'a pas seulement couvert d'un voile pudique nos iniquités. Il a détruit. Donc maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, dit saint Paul. Voilà pour Pierre. Un petit mot sur Jean quand même, puisqu'il y a ce passage ensuite. Pierre continue de se poser la question, et Jean, pourquoi Jésus vient de me remettre à la première place? C'est pas normal, c'est Jean qui devrait y être. D'ayant dit cela, il lui dit, suis-moi. Se retournant, ce qui est bizarre, hein, voyez, comme il va avoir du mal à obéir, hein, le gars. Jésus dit, suis-moi, il se retourne. Il faut savoir, tu vas dans quelle direction, Pierre? Donc déjà, c'est ambigu comme manière de formuler les choses. Se retournant, Pierre aperçoit, marchant à leur suite, le disciple que Jésus aimait. Qu'est-ce qu'il faisait là? Il avait envie d'écouter la conversation? Je ne sais pas, il était curieux quand même. Celui-là même qui, durant le repas, s'était penché sur la poitrine du Seigneur et avait dit, Seigneur, qu'est-ce qui te livre? Le voyant donc, Pierre dit à Jésus, « Seigneur, et lui ?» C'est ça sa question, « Et lui ?» Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Toi, suis-moi. » Le bruit se répandit alors chez les frères que ce disciple ne mourrait pas. Or, Jésus n'avait pas dit à Pierre, « Il ne mourra pas, mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne. » Alors là, il y a plein d'interprétations de ce passage, il y a eu tout un tas de légendes. Certains continuent encore de dire que Jean n'est pas mort, qu'il est allé dans le tombeau, mais qu'il est parti au ciel comme Enoch, comme Moïse, certains disent ça de Moïse, comme Élie. Et donc, il ne serait pas mort. Et il y a même une histoire, une légende, puisqu'on a ouvert le tombeau de Jean, qui est actuellement en Turquie, à Éphèse. On l'a ouvert, et certains disent au moment où on l'a ouvert, il y a de la fumée qui est sortie. Il n'y a pas le corps de Jean à l'intérieur du tombeau, donc toutes les spéculations sont ouvertes. Et disons plutôt que c'est la tradition joannique qui va se continuer dans l'Église. Il y a toujours dans l'Église une tradition mystique. Jean, c'est le mystique. Pierre, il doit suivre, c'est l'action. Demeurer, c'est Marie par rapport à Marthe, si vous voulez. Elle est au pied de Jésus, elle écoute sa parole, elle demeure. Et il y aura toujours dans l'Église jusqu'à la fin des temps quelque chose qui relève plus du contact intime où on est là. On n'a pas d'abord des choses à faire, on est là. Et ça, c'est vraiment Jean, ça, c'est vraiment demeurer. C'est le verbe le plus caractéristique de saint Jean et de la vie mystique, en fait, demeurer. Que ce qu'on fait pendant l'oraison, quand on passe du temps à prier devant le Saint-Sacrement ou tout seul dans sa chambre, eh bien, on demeure. Je suis là, tu es là. On demeure où alors? Je terminerai sur ça. C'est Guillaume de Saint-Thierry qui imagine ce dialogue. Il demande au Seigneur, ô vérité, réponds-nous. Je t'en prie, maître, où demeures-tu? Et Jésus lui dit, viens et vois. Ne crois-tu pas que moi je suis dans le Père et que le Père est en moi? Et alors il répond, grâce à toi, Seigneur, ton lieu, nous l'avons trouvé. Ton lieu, c'est le Père, et le lieu du Père, c'est toi. Voilà, in sinu patri, dans le sein du Père. Alors, je vous souhaite une bonne réflexion entre vous. J'espère que ça n'a pas été trop pesant, parce que quand on parle du péché, de la culpabilité, tout ça, de temps en temps, c'est un petit peu heavy. Et donc, ayez une discussion légère, joyeuse, autant possible. Bonne discussion.